Bonsoir, plus d'une quarantaine de policiers tués dans une embuscade tendue ce week-end sur la route Chikapakananga, près du village Kamwesha, par des présumés miliciens de Kamwenasapu. Entre-temps, dans plusieurs territoires du Grand Kasaï, les notables dénoncent les exactions attribuées à ces miliciens. Comment analyser cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 27 mars 2017. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat professeur Jacques Ntoli, sénateur et inspecteur général du MLC, le vice-président de la Commission des Fonds, Sécurité et Surveillance des Frontières au Sénat. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Jeff Mudimbi, professeur à la Faculté de Sciences Politiques et Administratives à l'Université de Lubumbashi. Professeur Mudimbi, bonsoir.
Bonsoir.
Nous devrions avoir dans cette émission le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité. Malheureusement, il vient de se désister. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Guilin Kasongo depuis Lubumbashi. Sans nul doute, la résurgence du phénomène Kamwenasapu remet en cause la mission menée par le chef de la territoriale congolaise il y a une semaine à Kananga, alors que les résultats étaient positifs. Serge Mousséganyo de Goma au Nord Kivu, cet événement démontre la dangerosité de ces miliciens. C'est un acte qui nécessite une réplique, mais pas disproportionnée, de la part des FRDC en vue d'éradiquer ce mouvement. Merci de nous suivre à Kananga, au Kasaï Central, sous la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Je l'ai dit, plus d'une quarantaine de policiers ont été tués vendredi dernier sur la route Chikapakananga. Ces éléments de la police nationale congolaise sont tombés dans une embuscade tendue près du village Kamwesha par des présumés miliciens de Kamwenasapu, ont rapporté dimanche 26 mars à la MONUSCO des sources policières des Kananga dans le Kasaï central. Selon ces sources, cet événement est survenu lorsque le véhicule transportant les policiers s'est embourbé. Billy Yvon Lutumba nous donne les détails.
Cette attaque intervient au lendemain d'une embuscade dans laquelle sont tombés des éléments de la police nationale congolaise sur le tronçon Chikapakananga. Des miliciens de Kamwenasapu ont piégé près de 48 policiers. D'après des informations livrées à la MONUSCO par des sources policières de Kananga dans le Kasaï central, 42 ont été tués et 6 ont réussi à s'échapper. Cet événement est survenu lorsque le véhicule transportant les policiers s'est embourbé. En rapport avec cette embuscade, le bilan est pour l'heure contradictoire. D'autres sources affirment que ce sont 52 policiers qui sont morts décapités. Et ici à Kinshasa, les responsables de la police contactés par Radio Kapi ont promis de se prononcer plus tard à ce sujet. Les autorités provinciales à Chikapa affirment que les routes de la cité sont contrôlées par les miliciens entre 45 et 120 km sur la route de Kananga. Rappelons que depuis vendredi soir, la localité de Kamwesha, située à une centaine de kilomètres de la ville de Chikapa, était sous une panique à la suite d'une incursion d'un groupe d'éléments attribués à la milice du chef coutumier Kamwenasapu. Deux sources sur place à Kamwesha ont indiqué que les présumés les miliciens sont arrivés en camion des militaires. Selon quelques habitants, à leur arrivée, ils ont déclaré qu'ils sont venus venger deux des leurs arrêtés par les chefs locaux et transférés à Chikapa. C'est ainsi qu'ils ont incendié les maisons du chef de village, celles du chef de groupement et d'un habitant.
Merci Billy Yvon Lutumba pour tous ces détails. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devrions avoir dans cette émission le vice-ministre de l'Intérieur, de la Sécurité. Malheureusement, il s'est désisté en dernière minute. Professeur Jacques Ntoli, je rappelle que vous êtes sénateur et vice-président de la Commission Défense, Sécurité, Surveillance des Frontières au Sénat. Professeur, comment vous analysez cette situation alors qu'il y a quelques jours, le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur avait annoncé la reddition de ces miliciens?
Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. J'aurais été heureux d'être en face du vice-ministre. Vous me dites qu'il a désisté. Ça démontre justement l'évolution politique et administrative actuelle de notre pays. On vit dans une sorte de décomposition et d'irresponsabilité globale qui nous amène, n'est-ce pas, à cette situation. La situation qui prévaut aujourd'hui dans les Kasaï, dans l'espace kasaïen, qui embrase pratiquement toute la province de l'espace Kasaï, que ce soit le Kasaï les Kassai central, les Kassai oriental et la Lomami. C'est une situation qui n'est pas spécifique. Nous savons ce qui se passe, n'est-ce pas, dans la province du Katanga, notamment dans le Tanganyika, avec des conflits de notre âge entre Pygmées et Bantous. Je laisse passer la situation incontrôlable, n'est-ce pas, dans à l'est de la République. Dans le nord Kivu, à Beni, Butembo et dans tous les autres territoires où des Maïmaï, des groupes armés nationaux et internationaux font la pluie des bons temps. Et pas plus tard qu'il y a deux semaines, vous avez appris que dans le Maniema, n'est-ce pas, dans une entité d'exploitation d'or à Namoya où on a carrément kidnappé plus ou moins 6 expatriés dont des Américains. Et dans l'espace Kassai, jusqu'à présent, nous ne savons pas la situation de 2 expatriés qui étaient en mission d'enquête dans le cadre des Nations Unies. Tout cela démontre une chose, madame, comme je l'ai dit au départ, il y a une décomposition, il y a une déliquescence de l'État qui embrase les secteurs politiques, social et économique. Et face à cette situation, le gouvernement qui est là depuis pratiquement le mois de décembre est incapable de donner riposte. Et le cas de cet excès de 40 policiers décapités, vous voyez qu'on n'a pas on n'est pas en face des responsables. Les informations qui ont été données d'abord par un président de l'Assemblée provinciale qui n'a aucune compétence en matière de sécurité. Il a été contredit par le vice-gouverneur du Kassai central, et jusqu'à présent nous ne savons pas où est le gouverneur du Kassai central. Pratiquement, il est devenu à faune depuis 3-4 mois que ce phénomène a commencé, et lorsqu'on appelle la police, elle ne sait pas confirmer, elle qui est très loquace lorsqu'il y a des attaques contre le paisible citoyen de la ville de Kinshasa pour nous dire qu'il y a des bandits, des terroristes. Mais là, nous nous trouvons dans des cas où
la police a annoncé que l'enquête était en cours et qu'elle se prononcerait plus tard.
Madame,
à ce sujet.
C'est une honte dire qu'on ouvre une enquête alors que toute la contrée, ce sont des personnes non compétentes qui nous informent. Je voudrais vous dire à cet effet qu'aujourd'hui, on parle de plus de 400 morts depuis août 2016, lorsque ces événements ont commencé, plus de 200 000 déplacés, et il y a même des réfugiés qui sont maintenant en Angola. La réponse semble erratique. Nous avons, avec beaucoup d'intérêt, suivi la présence du vice-premier ministre, qui a visité un certain nombre d'entités dans l'espace kassaïen. On nous a annoncé avec pompe, n'est-ce pas, la reddition de quelques éléments de ces milices Kamona Nsapu dans la ville de Kananga, mais le même jour, on a appris que 2 milices de ces Kamona Nsapu s'approntaient dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province de l'Est Kassai Occidental, où il y a une école de formation d'officiers. Nous nous demandons, nous sommes dans quel espace.
Cette question n'est pas traitée avec beaucoup de sérieux.
Madame, je vous ai dit qu'il y a un problème de décomposition politique ou d'irresponsabilité. C'est que la question sécuritaire est liée, n'est que la conséquence, n'est-ce pas, de l'inconséquence politique. Aujourd'hui, nous ne savons pas où est l'impérium. Depuis pratiquement le mois de juin 2016, nous sommes en train de discuter. Nous avons eu un accord politique au mois d'octobre à la Cité de l'Union africaine, et aujourd'hui nous sommes le 27 mars. L'accord de l'Union africaine n'a pas pu produire des effets, et on attendait avoir un arrangement ou un accord qui a été signé le 31 décembre. Aujourd'hui, politiquement, ces pays se trouve, comme l'a dit Monseigneur Outembi, avec des institutions qui ont perdu toute leur légitimité. Lorsqu'on perd la légitimité, on perd l'efficacité. Donc c'est ça le problème. Le problème central est éminemment politique. La légitimité des institutions qui va donner l'efficacité et l'efficience. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas gouvernés au niveau central, mais surtout au niveau provincial, madame. Il n'y a pas de gouverneur au Kassai depuis plus de 3 mois. C'est un vice-gouverneur et un président de l'Assemblée nationale qui nous annonce des informations sur la décapitation de 42 militaires.
Merci,
et la police nationale est incapable de nous dire, elle nous dit qu'elle est en train de faire des enquêtes.
Merci,
c'est tout simplement
Jacques,
désolant.
Ndoli, la réalisation me signale qu'on a un communicateur de la majorité présidentielle en ligne. Il s'agit de Papi Tamba. Oui, voilà. Monsieur Tamba, bonsoir.
Bonsoir, Madame Couté.
Alors, Monsieur Tamba, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Comment vous analysez cette situation? Une quarantaine, plus d'une quarantaine de policiers tués vendredi dernier sur la route Tchikiapa-Kananga. Comment vous expliquez cela alors qu'il y a quelque temps, on nous a montré les images des miliciens qui s'étaient rendus? Comment vous expliquez cela?
Déjà, merci pour l'invitation et surtout pour l'intérêt que la radio Okapi porte sur les sujets, parce qu'il était plutôt inquiétant, du moins pour notre part, de voir que la presse internationale a fait autant de bruit pour nous parler de ce qui serait arrivé à certains miliciens de Kamanasapu, comme quoi ils auraient été victimes de la barbarie de nos éléments en uniforme. Maintenant qu'on parle des 40 éléments de notre part, c'est-à-dire de la part des forces loyalistes, qui sont tombés entre les mains des miliciens, nous voyons pas de bruit autour de ce sujet. Que la radio Okapi puisse s'intéresser sur ce sujet, ça ne peut que nous faire plaisir. Vous savez, madame, lorsque vous avez des attaques asymétriques, on essaie d'identifier par rapport à une personne qui s'appelle Kamuna Sapo, un chef coutumier, et que la famille de cette dernière s'érange. La famille de cette dernière insiste même pour dire qu'il ne faudrait pas que nous puissions avoir des gens qui vont, au nom de la famille ou au nom de Kamuna Sapo, continuer à terroriser la population civile ou à chercher l'affrontement avec la police. Mais que deux ou trois jours après, vous attendez ces gens d'actes et ces commerces. C'est bien la preuve de ce que nous craignons depuis longtemps, que le problème a dépassé la simple famille des Kamunansapu. Nous sommes maintenant en face des forces obscures. Et vous savez, les forces obscures, en matière de guerre asymétrique, même certains États nantis qui ont les moyens de leur exercice, ils ont du mal à pouvoir les identifier tout de suite. Je ne pense pas que c'était au lendemain des événements du 11 septembre 2001 que les Américains avaient tout de suite identifié la personne qu'il fallait. Ils ont commencé à mener des attaques, je vais passer mon expression, un peu à tout va. Il fallait recouper cela avec un grand nombre d'éléments de renseignement pour qu'ils puissent au moins bien localiser la cible. Les paradoxes aujourd'hui ou la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus devant une situation de guerre conventionnelle. Nous avons des gens qui s'identifient comme milices des Kamuna Sapu, mais qui en réalité ne sont pas comme tels. En réalité, maintenant, il y a des gens derrière, et lorsque nous entendons le discours de nos opposants, la manière dont ils essayent de les contourner pour en faire un dossier politique, sur le plan par rapport même à ce qui se passe aujourd'hui, j'ai entendu le professeur Ndoli, que je salue au passage, que le professeur Ndoli évoque encore la situation et la légitimité des institutions. Il est juriste, il sait de quoi il parle, parce que je n'aborderai pas les problèmes comme lui. Il évoque un certain nombre de problèmes liés au dialogue par rapport aux arrangements particuliers pour les lier avec la situation qui se passe au niveau du Kassai central où 40 policiers se font décapiter. C'est là que je trouve qu'on serait en droit de se poser des questions si ce n'est pas une manœuvre qui pourrait aussi venir de certains amis, je n'accuse personne,
pour que ce soit
un moyen de pression. Parce que sinon, on ne pourra pas entendre ce genre de propos. Qu'est-ce que les professeurs Ndoli gagneraient à entendre qu'aujourd'hui nous puissions avoir 40 policiers qui puissent être décapités?
Monsieur Tamba, s'il vous plaît, mais par rapport à cette situation, c'est quand même une nouvelle très grave. Plus de 40 policiers décapités. Aucune autorité ne s'exprime sur cette affaire. Les gens doivent quand même se poser des questions.
Il ne faudrait pas dire qu'aucune autorité s'exprime parce que les autorités compétentes se sont exprimées. Ces autorités sont au niveau provincial. Ils se sont exprimés. Il ne faudrait pas que nous puissions faire du malheur du peuple congolais comme un fonds de commerce. Nous ne marchandons pas les malheurs du peuple congolais. Nous ne les vendons pas à travers le monde. Je crois que la justice militaire qui s'est saisie par rapport à un certain nombre de faits, la police qui est sur le terrain, qui pourrait continuer à poursuivre les investigations en cette matière, les moments venus, ils nous donneront des éléments un peu plus précis par rapport à ça. Parce qu'il y a un flou total dans tout ce qui se passe par rapport à cette affaire de Kamounassa.
Est-ce qu'on peut dire que...
réponse,
est-ce
madame.
Qu'on peut dire que la dernière édition dont a fait allusion le vice-premier ministre chargé de l'intérieur des Kamounassa, c'était pas sincère, cette cérémonie qu'on a vue au stade à Kananga, c'était pas une cérémonie sincère, c'était...
Non, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas une cérémonie sincère, c'est la preuve qu'il y a des tirets et des ficelles qui œuvraient au nom des Kamounassavou. Les Kamounassavou, pire que dire, se sont rendus. Il n'y a pas de débat là-dessus, ça c'est clair. Mais lorsqu'il y a continuité de leurs actions, ça montre que dans les lots, c'était mêlé des gens, qui, je peux me permettre l'expression, qui sont maintenant dans une guerre asymétrique contre l'État. C'est là maintenant que nous devons tous ensemble, peuple congolais, nous mobiliser comme un seul homme. Parce que vous savez, madame, lorsqu'il y a un seul policier qui est tué dans certaines attaques, sous d'autres cieux, parlant par exemple de la France, un pays où j'ai longtemps vécu, où le Pop Saint-Jolie aussi a vécu, je crois que c'est une affaire qui devient une affaire nationale. Et nous devons aussi apprendre à comment nous pouvons respecter la mémoire de nos policiers qui perdent leur vie lorsque ces policiers ne sont que là pour essayer de préserver la vie des civils. Il ne faut dire que les hommes politiques que nous sommes, nous puissions en parler avec beaucoup de retenue pour que nos propos ne puissent pas paraître comme si nous sommes en train de légitimer les miliciens par rapport à ceux qui sont tentés de commettre. Et ça, c'est pas bon.
Merci, M. Tamba. Professeur Jeff Moudimbi, professeur à la faculté de sciences politiques administratives à l'université de Lubumbashi. Professeur, quelle est votre lecture à vous par rapport à ce phénomène Kamounassavou? Je crois qu'on a un petit souci avec la ligne du professeur. Professeur, est-ce que vous êtes en ligne, professeur Jeff Moudimbi? On va essayer de le rappeler, mais en attendant de retrouver le prof, professeur Jean Jolie, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga.
C'est Patrick Mbouli, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Cette situation vient de mettre en cause les déclarations des autorités tant nationales que provinciales faisant état d'une reddition de cette milice. Et cela prouve la légèreté par laquelle la question de la sécurité du pays est traitée et des proportions inquiétantes que prennent ces phénomènes qui risquent de se généraliser partout au pays, vu la précarité de la situation sociale du peuple congolais. Et cela nous laisse à croire qu'il y a une main noire derrière cette histoire.
Alors cet auditeur vous rejoint un peu, professeur Jacques Njoli, et il ajoute même que ça laisse à croire qu'il y a une main noire derrière cette histoire de Kamounassavou.
Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord revenir sur le propos de M. Tapi Papi Tamba que vous avez appelé communicateur. Je ne sais pas quelle est la responsabilité administrative ou politique d'un communicateur, alors que nous devions discuter avec un responsable, à savoir le vice-ministre. Mais qu'à cela tienne, c'est un citoyen congolais qui a le droit d'émettre ce point de vue. Alors, il estime, avant d'y arriver, je crois que les réponses que je devais lui donner viennent de l'être données par M. Patrick Mbouli, qui est étonné par la légèreté avec laquelle ces phénomènes, qui est vieux, n'est-ce pas, depuis octobre 2016, qui jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au mois de mars 2017, continue à être pour les uns un phénomène. S'il y a de main noire, madame, nous avons des services. Lorsque M. Papi Tamba évoque la guerre non conventionnelle ou la guerre asymétrique, mais la guerre asymétrique a ses méthodes de combat, ses méthodes opérationnelles. La guerre asymétrique ne doit pas être un phénomène non maîtrisable. Il y a deux types de guerres, la guerre conventionnelle qui est menée par l'armée conventionnelle et une guerre non conventionnelle qui est menée par les services de renseignement. Je suis étonné que les services de renseignement qui soient prompts à découvrir ou à traquer les opposants ne soient pas capables de trouver plus de 48 heures après, ou presque 6 mois, les mains noires qui sont derrière cette situation que nous déplorons. Quand on tue 40 policiers ou 42 policiers, et que on puisse commencer à divaguer, moi je trouve ça moins sérieux. Et ce n'est pas 42 policiers, on a déjà tué, selon la réunion institutionnelle, 67 policiers. Donc, les 67 policiers tués viennent dans les 42...
C'est depuis que le phénomène a commencé.
Oui, et il y a plusieurs, n'est-ce pas, éléments des forces armées qui sont attaqués. Donc, je voudrais d'abord qu'on puisse se remémorer la réponse, les réponses contradictoires du ministre Mende qui a parlé de montage et du ministre Shoki Tundu qui a parlé de non professionnalisme, n'est-ce pas, de nos troupes. Et il y a eu le magistrat militaire, moi-même je fais partie du corps de magistrats militaires, qui a démontré qu'il y a des crimes contre l'humanité parce que, non pas qu'on nie, n'est-ce pas, la violence ou la virulence de ces gens-là, mais il y a un problème d'utilisation de méthodes proportionnelles et autres. Donc, la problématique de guerre asymétrique ne désarme pas ou ne donne pas droit à l'inefficacité ou à la légèreté, n'est-ce pas, dans la prise de décision. Donc, je crois qu'il faut rester sérieux. Et lorsqu'on doit débattre de questions aussi spécifiques, de questions aussi techniques, il ne faut pas venir avec de propos de droit commun. Il est question aujourd'hui de toute une partie du centre du territoire national qui est occupée, qui est sous une violence incontrôlable. Nous avons la Lomami, nous avons le Kassai central, Tchikapa a été attaqué, Kananga a été attaqué, et Mweneditu, les gens meurent chaque jour, et il faut une réponse adéquate, et non des propos tout simplement de communication politique.
Merci professeur Jacques Ntoli, on est final que le prof Jacques Ndibimbi est en ligne. Professeur, bonsoir.
Bonsoir madame.
Alors je pose la question de savoir quelle est votre lecture à vous par rapport à cette situation, à ce phénomène Kamuna Safu. Voilà, il y a quelques jours on pensait que la situation était maîtrisée, mais le week-end on a appris que ces miliciens, ces présumés miliciens ont décapité plus de 40 policiers. Comment vous analysez cela?
Merci beaucoup madame. Avant toute chose, je voudrais saluer le professeur Jacques Ndjoli et monsieur Papi Tamba, tout en exprimant aussi mon regret du fait que le vice-ministre ne soit pas là, alors que c'est vraiment une personne mieux indiquée pour nous donner un peu la situation au clair. En effet, je voudrais aussi préciser que le débat sur le phénomène Kamuna Nsapu ne nécessite pas que nous puissions l'aborder sur base des rapports que nous lisons dans les bureaux climatisés, mais il est aussi important que on fasse un réel travail de descente sur terrain pour palper la réalité en main. En effet, d'abord, j'ai été très choqué par le reportage qui a été fait que les policiers sont tombés dans l'embuscade lorsque le camion s'est embourbé. Madame, déjà, il y a une interpellation que nous pouvons faire au gouvernement congolais, parce que il y a belle lurette, c'est que les routes faisaient déjà partie du programme du gouvernement, et il serait maintenant regrettable qu'aujourd'hui, qu'un camion, dans une mission bien précise, puisse s'embourber parce que le gouvernement n'a pas pris soin d'aménager les routes. Et c'est vraiment regrettable. Alors, s'agissant maintenant du problème tel que vous venez de le poser, je voudrais l'analyser dans une perspective purement systémique. En effet, bon, dans une communauté, les individus éprouvent certains besoins et parfois ils sont confrontés à certains problèmes dont certains eux-mêmes trouvent satisfaction et résolution, mais d'autres, par contre, nécessitent l'intervention des dirigeants de l'État. Alors, il appartient aux dirigeants de l'État de développer un certain nombre de capacités. Alors, parmi ces capacités, je vais beaucoup plus insister sur la capacité réceptive, la capacité distributive et même la capacité régulative. S'agissant de la capacité régulative, il appartient donc aux gouvernants d'être très attentifs sur tout ce qui se fait dans l'environnement, qu'il s'agisse de l'environnement international comme aussi de l'environnement national. Alors, à ce niveau, j'analyse que le gouvernement congolais n'a pas tellement fait montre de cette capacité ou bien de l'efficacité de cette capacité réceptive. Parce que le mouvement ici, quand il a commencé très timidement et le gouvernement a pu banaliser comme si c'était un fait anodin. Et voilà qu'aujourd'hui, le mouvement commence à prendre des proportions très inquiétantes et on est incapable, jusque maintenant là, de dire exactement qui sont les répondants de ces mouvements. En plus de cela, si les gens ressentent quand même des besoins, il appartient au gouvernement.
La ligne du professeur s'est encore détériorée. On va essayer de le rappeler. Monsieur Tambo, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Robert Mahomet, j'appelle de Bukavu, Sud Kivu. Il est assez curieux qu'après le passage du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à Kananga, des tueries et autres dégâts ne cessent de se commettre au Kasaï central. Est-ce à dire que le dialogue entre le gouvernement et la milice Kamuina Nsapu n'a pas été effectué ni sincère? Au fond, que veut gagner le gouvernement congolais s'il ne parvient pas à accéder réellement aux revendications de cette milice? Pour tout dire, combien de morts et de dégâts faut-il comptabiliser pour que la sécurité et la paix se stabilisent au Kasaï central?
Monsieur Tamba.
Merci beaucoup. Je voulais d'abord dire au professeur Jean Joly que la qualité de mes fils n'est pas une bonne chose pour un responsable politique de sa trempe. Nous faisons les débats ici et je pense que c'est pas nécessaire de brandir les qualités. Nous sommes des Congolais qui pourraient très bien échanger à la radio Capi puisque nous, si nous y sommes, c'est que nous sommes invités. Et si nous sommes invités, c'est que ceux qui nous ont invités à nos qualités. Alors maintenant, par rapport à la question que vous posez, je pense que la voix a dit tout à l'heure. J'ai dit que ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes en train d'observer des choses d'une particulière gravité. Dans la mesure où les miliciens de Kamuina Nsapu se sont rendus. Là, il n'y a pas de doute là-dessus.
Mais malgré tout, il y a des gens qui disent qu'on a, on a dédoublé ces miliciens-là et que le jeune qui était au stade aurait reçu de l'argent de la part du vice-premier ministre.
Le problème, c'est toujours ça quand la politique s'en mêle. Et c'est ce qui n'est pas bien, puisque en ce genre de matière, normalement, nous devions l'aborder sans aucun clivage politique. Vous savez, madame, écoutez, on s'est réveillé un matin. On apprend qu'en France, un jour comme ça, les présidents français, au stade de France, et personne ne peut aujourd'hui nous dire que le président français n'a pas un dispositif sécuritaire autour de lui qui soit efficace, hein, il a failli même être attaqué par un mouvement. Et ces jours-là, on a déploré plus de 120 quelques morts en France. Je crois que les commentaires des acteurs politiques ne sont pas allés dans le sens de diviser encore la nation, c'est aller dans le sens de renforcer l'unité pour combattre ce genre de choses. Nous ne devons pas faire de nos divergences politiques un fonds de commerce quand il s'agit de parler des malheurs des peuples congolais. Ça, c'est pas une bonne chose, je l'ai toujours répété. Ici, nous sommes en train de parler des miliciens non autrement identifiés à ce jour, puisque tout permet de dire qu'ils ne sont pas des miliciens de Kamuina Nsapu. Ce sont des gens qui œuvrent avec des... il y a des tirets de ficelles, ils ont des gens derrière et qui, jusque-là, ne sont pas encore identifiés.
Mais depuis octobre 2016 que ce phénomène a commencé, on a quand même des services de renseignement.
Vous savez, madame, je vais vous dire une chose. Vous parlez depuis octobre 2016, je ne ferai pas la politique comparée, mais je crois qu'il est sous d'autres cieux, avec tous les moyens qu'ils peuvent disposer, je pense que certains mouvements, ça a mis même plusieurs mois, pour qu'ils puissent identifier qui était derrière ça. Donc, lorsque les gens agissent de façon asymétrique, il faut savoir qu'ils agissent d'abord par effet de surprise. Et puis, deuxièmement, ce sont des mouvements cloisonnés. Ce sont des mouvements cloisonnés où, généralement, on tombe que sur des cadavres. C'est-à-dire, on tombe rarement sur un vivant qui pourrait dénoncer ou qui pourrait déballer ce qui se passe chez eux. C'est un mouvement extrêmement difficile. D'autres, ce sont des mouvements extrêmement difficiles à combattre, madame. Aller en Colombie, demander au gouvernement colombien ce qu'ils en font avec les PAC plutôt, ils vous en diront quelque chose. Qu'à cela ne tienne, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir que ces problèmes devaient nous préoccuper en tant que Congolais au plus haut point pour que nous sachions comment combattre ces phénomènes. Nous venons de très loin, madame. Nous avions eu, selon un rapport de l'ONU, plus de 40 mouvements rebelles sur notre territoire qui, au moins une grande partie, ont été éradiqués. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus, plus que c'est attesté par un rapport des Nations Unies. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui nous puissions encore revoir ce genre de choses, surtout au centre dans notre pays. Nous devons lancer un message clair à ces différents mouvements. Lorsque vous avez un sénateur de la République, tel que le professeur Ndioli, qui passe à la radio Kati, qui essaie de passer un message alambiqué, sachant que nous pouvons être suivis par ces miliciens, c'est qu'ils peuvent penser qu'ils ont des relais à Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, une certaine opposition pourrait peut-être soutenir leur cause. Ce n'est pas étonnant. À chaque fois que vous avez remarqué une rébellion naître chez nous, dans leurs revendications, ils ont toujours inscrit la matière qui oppose les Congolais au niveau national, c'est-à-dire au niveau plutôt de la capitale. Les M23 qui commencent, ils parlent de la revendication de ce qu'ils ont appelé « vérité des urnes » en essayant de s'accrocher sur la revendication du fait président Étienne Tshisekedi. Donc c'est là où le président, le sénateur Jacques Njobi pourrait au moins comprendre la pertinence, ou même pourrait comprendre la portée.
Monsieur Tamba, alors on va revenir rapidement sur le phénomène Kamwina Sapoutou. Kamwina Sapoutou, ces présumés miliciens avaient réclamé le corps de leur chef. Le vice-premier ministre avait promis de rendre ce corps, mais on est où en étant aujourd'hui? À quel niveau se trouvent les démarches pour restituer le corps du chef de ces présumés miliciens?
Vous savez, là vous essayez d'aborder un sujet où... vous avez tous les réseaux, vous pourriez peut-être contacter les personnes habilitées pour répondre à cette question. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question pour savoir...
Merci, Monsieur Tamba. Professeur Jeff Mudimbi, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kisangani.
Ma belle Algérie de Kisangani, le gouvernement congolais devrait faire montre de sa capacité à éradiquer une force négative opérant sur son territoire de manière définitive. La semaine passée, on a parlé de la reddition de ces miliciens. Il y a eu même des scènes de liesse à cette occasion pour fêter les retours de la paix dans le Kasaï. Il fallait, à mon avis, des mesures concrètes de vigilance pour prévenir et éviter des surprises désagréables. Ces derniers devraient apprendre à donner des solutions durables aux problèmes de la sécurité.
Le professeur Jeff Mudimbi.
Merci beaucoup, madame, et je voudrais aussi remercier... l'intervenant, en précisant que, bon, effectivement, il a abordé la question presque dans la même perspective que moi, mais hélas, je n'ai pas réussi à terminer mes idées, mais je voudrais tout simplement dire ceci, que, bon, le gouvernement congolais, il n'est infecté pour personne, présente un peu d'insuffisance sur certaines capacités, notamment la capacité réceptive, je l'avais dit, la capacité distributive et même la capacité régulative. Je voudrais revenir sur la capacité régulative. C'est elle, en effet, qui permet, lorsque dans la société, il y a des cas que l'on peut juger comme étant des cas de déviation, que l'on remette tout le monde sur les rails. Alors, revenant par exemple à la situation de Kamwina Sapoutou, ces gens ont des revendications dont on a banalisé de tout ce temps. Alors, moi, je pense que il appartient au gouvernement, en tant que système, de chercher les véritables causes. Pourquoi il y a cette insurrection? Alors, à partir du moment où on connaît très bien les causes, c'est-à-dire que le système fait déjà montre de sa capacité réceptive, elle peut maintenant mobiliser les ressources pour pouvoir trouver solution à ces problèmes. Mais hélas, nous parlons, et on en parlera toujours, plutôt que de s'attaquer aux causes, mais nous constatons qu'on s'attaque beaucoup plus aux effets. Et nous devons aussi retenir une chose, que l'instinct de défense est un instinct qui est reconnu à tout être humain. Même les insectes développent cet instinct de défense. Mais à partir du moment où quelqu'un se sent en insécurité, quelqu'un se sent vraiment attaqué, madame, soyez rassurée que dans pareille circonstance, on ne peut que chercher aussi à se défendre. C'est pourquoi là, je dis que la violence appelle la violence. Dans ce cas, il est souhaitable que le gouvernement congolais fasse un effort, parce que c'est lui qui est chargé de trouver solution aux problèmes des Congolais et des différents groupes qui forment la nation congolaise. Alors, à partir de là, si on est à l'écoute de ce que les gens disent, l'État congolais peut mobiliser suffisamment de moyens et trouver des solutions à en s'attaquant aux causes plutôt que de s'attaquer aux effets. Et en procédant de la sorte, je pense que les violences risquent encore de perdurer davantage, parce que nous avons suivi par la voix des médias que le vice-premier ministre aurait même promis que dans 2 semaines, il rentrerait pour l'investiture du nouveau chef. Nous avons déjà consommé 1 semaine et il ne nous reste que 6 jours. Mais alors, voyez-vous, si encore cette promesse-là n'est pas réalisée, cela risquerait d'exacerber la situation pour rien. C'est pourquoi, moi, je voudrais que les gouvernants prennent vraiment toutes leurs dispositions en ne négligeant pas ou en ne minimisant pas tout ce qui est en train de se produire, de prendre des mesures appropriées. Et je crois que, de la sorte, on peut trouver la paix tant recherchée dans notre pays.
Alors, vous parlez des mesures appropriées, professeur. Quelles pourraient être ces mesures? Parce qu'on a vu quand même le gouvernement faire un pas, aller vers ces miliciens, essayer de discuter avec eux. C'était déjà un début de solution, mais... Professeur?
Oui, j'ai dit ceci. Les mesures appropriées concernent, à mon avis, d'abord d'identifier les véritables répondants de ce mouvement. Qui sont les véritables répondants? Quelles sont leurs revendications? Est-ce que le gouvernement peut trouver des solutions y afférentes, ou bien il y a lieu de faire des concessions? Parce qu'effectivement, dans ce cas ici, le gouvernement ne peut que négocier. Et dans une négociation, chacun ne peut pas tenter sur ses positions. On peut arriver à céder et à faire des concessions de tous les deux côtés pour trouver une solution, comme je sais bien de le dire, mutuellement acceptable.
Merci, professeur Jeff Moudimbi. Professeur Jeanne Jolie, quelle serait la solution durable pour éradiquer ce phénomène ou pour trouver une solution à ce phénomène comme la Sapo?
La première solution, c'est d'abord que ceux qui se prétendent être communicateurs puissent, n'est-ce pas, avoir la capacité d'écoute avant de commencer à communiquer. D'écouter, comme le dit le collègue de Lubumbashi, parce que la première mission de l'État, c'est d'abord, en ayant le monopole de la violence physique légitime, d'assurer la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes dans une insécurité. Et au-delà des images alambiquées ou autres, il est important de savoir, comme on l'a dit, quelle est la source de ces problèmes. Il s'agit apparemment d'un problème coutumier, d'un problème de succession qui a mal tourné, parce que les éléments envoyés dans les villages de Kamenon-Sapou sont allés probablement au-delà. Il y a eu des actes, des abus, et à partir de ce moment-là, ce mouvement a pu se développer pour prendre cette ampleur que nous déplorons tous. Donc, je crois que le travail fait par le vice-premier ministre, qui je félicite parce qu'il a été le premier à aller sur le terrain, d'aller jusqu'à mener du tout, d'écouter, et ce travail doit être approfondi pour aller au-delà des effets, toucher le cause. Et ces causes, madame, c'est d'abord, un, l'approche coutumière pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que ces chefs ne soient pas reconnus. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ou régulariser cette situation coutumière? Enfin, ensuite, il faut voir la situation politique générale. Nous venons d'une administration qui était plus ou moins structurée depuis plusieurs années. Avec l'éclatement de provinces, il y a comme un flottement de l'autorité globale sur cet territoire. Ce qui se passe aujourd'hui dans les Kassai peut aussi se passer. J'ai entendu dire qu'il y a le nombre de mouvements armés qui ont diminué. Aujourd'hui, les chiffres des Nations Unies démontrent au contraire qu'il y a explosion. On parle des ex, des présumés des Fnalou, dont on ne connaît jusqu'à présent pas quelle est leur nature. Il y a des nouveaux Maïmaï qui apparaissent, des Maïmaï Mazembe. Il y a des nouveaux groupes qui apparaissent. Et dans l'espace Kassai, ceux qui étaient attaqués hier par les bâtons, on nous dit aujourd'hui qu'ils sont armés. Donc c'est une situation préoccupante qu'il faut résoudre de manière systémique, comme a dit les collègues, en plan coutumier, au plan politique, mais aussi au plan social et économique. Madame, aujourd'hui, dans les Kassai, nous assistons à l'effondrement socio-économique, la chute de la MIBA, la chute de les tracasseries administratives en matière du diamant ont fait qu'il y a aujourd'hui une jeunesse totalement désœuvrée et qui est prête à écouter n'importe quel discours de désespoir.
En conclusion, professeur.
Et en conclusion, il faut restaurer les fondamentaux d'un État. C'est-à-dire, un, assurer la sécurité. Deux, promouvoir le bien-être, les besoins sociaux de base.
Enfin,
aujourd'hui, économiquement et politiquement, il faut aller trouver la stabilité, la légitimité en organisant rapidement les élections pour que nous ayons des autorités légitimes.
Monsieur Tamba, votre conclusion, quelles sont les solutions aujourd'hui pour mettre fin à cette situation?
Merci beaucoup. Je ne suis pas communicateur, mais je suis communicateur, professeur.
Est-ce que vous pouvez aller nous répondre, monsieur Tamba, on a plus beaucoup
Madame
de temps.
Écoutez, vous me permettrez, j'ai toujours pour habitude, quand je suis épinglé, de pouvoir porter ma réponse. Vous aurez pu interdire au professeur Ndjoli, et moi je n'aurais pas aussi répondu. Alors, je voulais.
Alors, la solution, oui.
Je crois que la première solution pour moi, c'est que les tirés de ficelle commencent d'abord par se sentir plus patriotes. Ces différents mouvements ne sont pas nés de façon spontanée. Il y a des gens derrière.
Merci, M. Tamba. Professeur, un mot pour conclure. Juste un mot.
Et merci beaucoup que le gouvernement congolais développe ses capacités pour trouver solution aux problèmes.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Bonne suite au programme sur la fréquence de la paix.